Chapitre 24. Gladstone se distransporta directement à la maison du gouvernement et s'engouffra dans le centre de commandement tactique avec Leigh Hunt et une demi-douzaine de collaborateurs dans son sillage. La salle était pleine à craquer. Morpurgo, Singh, Van Zeit et une douzaine d'autres représentaient les militaires. La présidente remarqua l'absence du jeune héros de la flotte, le commandant Lee. Presque tous les ministres du cabinet étaient là, y compris Alan Imoto de la Défense, Garion Persoff de la Diplomatie et Barbara Dan Geddes de l'Économie. Plusieurs sénateurs arrivèrent en même temps qu'elle. Certains donnaient l'impression qu'on les avait tirés du lit. La courbe du pouvoir, au sommet de la table de conférence ovale, était réservée aux sénateurs Kolchev de l'Usus, Richaud du Vecteur Renaissance, Rohan Kist de Nordholm, Kakinuma de Fuji, Saben Storafem de Sol Draconi Septem, et Peters de Deneb Drey. Le président pro tempore Denzel Kyat Amin avait une expression totalement égarée, son crâne chauve reflétant la lumière des spots du plafond, tandis que son jeune homologue de l'Assemblée de la Pangermie, le speaker Gibbons, était perché sur le bord de son siège, les mains sur les genoux, dans une attitude d'énergie difficilement contenue. Face au fauteuil vide de Gladstone, siégeait la projection du conseiller Albedo. Tout le monde se leva à l'entrée de la présidente. Elle prit place et fit signe à l'assistance de se rasseoir.
« Je veux une explication, » dit-elle.
Le général Morpurgo se leva et fit un signe de tête à un subordonné. Les lumières s'éteignirent tandis que des holos prenaient forme.
« Laissez tomber les préliminaires visuels, »
lança Gladstone.
« Donnez-nous une explication. »
Les holos pâlirent tandis que la lumière revenait. Morpurgo avait l'air accablé, légèrement hagard. Il regarda le pointeur lumineux qu'il tenait à la main, fronça les sourcils et le remit dans sa poche.
« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Ministres, Présidents par intérim et Speaker, »
commença-t-il d'une voix rauque.
« Les extros ont réussi à lancer une attaque surprise d'une ampleur dévastatrice. » Leurs essaims menacent une demi-douzaine de mondes du Reds.
Les réactions de la salle noyèrent le reste de ses paroles.
Des mondes du Reds !
S'écrièrent plusieurs voix à la fois. Des cris furent lancés par des politiciens, des ministres et des fonctionnaires de haut rang.
Silence !
Commanda Gladstone, et le brouhaha cessa aussitôt.
Général !
Dit-elle d'une voix forte.
Vous nous aviez assuré que les forces hostiles se trouvaient à au moins 5 années de distance du Reds. Pourquoi et comment ce changement s'est-il produit ?
Morpurgo se tourna vers elle.
Madame la Présidente, pour autant que nous puissions le dire dans l'état actuel de nos estimations, il semble que la totalité de leur traînée de propulsion Hawking ait été constituée par des leurres. Les essaims ont coupé leurs propulseurs depuis des décennies et se dirigeaient vers leurs objectifs à des vitesses infraluminiques.
De nouveau, un brouhaha excité noya ses paroles.
« Poursuivez, général !»
tonna Gladstone, et le brouhaha se calma comme par enchantement.
« À des vitesses infraluminiques, »
répéta Morpurgo.
« Certains de leurs essaims ont dû voyager ainsi depuis 50 ans ou plus. Nous n'avions aucun moyen de les détecter dans ces conditions. Ce n'est la faute de...
« Quelles sont les planètes menacées, général ?»
demanda Gladstone d'une voix calme, mais volontairement basse. Morpurgo regarda dans le vide comme s'il cherchait les affichages holo qui auraient dû s'y trouver. Puis il se tourna de nouveau vers la table, les poings serrés.
« Nos services de renseignement, d'après des observations de traînées de fusion suivies de signatures Hawking au moment où elles ont été découvertes, suggère que la première vague d'assaut arrivera aux abords d'Evans Gate, du Bosquet de Dieu, de Mare Infinitus, d'Asquith, d'Ischion, de Tsingtao Hiswang Pana, d'Actéon, du monde de Barnard et de Temp, dans un délai de 15 à 72 heures. »
Cette fois-ci, il ne fallait pas tenter d'imposer le silence à l'assistance déchaînée. Gladstone laissa les cris et les interpellations continuer plusieurs minutes avant de lever le bras pour essayer de se faire entendre. Le sénateur Kolchev, debout, avait le poing dressé en direction de Morpurgo.
Comment avons-nous pu en arriver là, général ? Vous nous aviez donné des assurances catégoriques.
Morpurgo répondit sans s'enflammer.
C'est exact, monsieur le sénateur. Elles étaient fondées sur des informations erronées. Nous nous sommes trompés. J'ai l'intention de remettre ma démission à la présidente dans l'heure qui vient. Les autres chefs d'état-major feront de même.
Allez au diable avec votre démission !
Hurla Kolchev.
Nous risquons tous de finir pendus à un cadre de porte distance avant la fin de cette séance. La question que nous vous posons, c'est qu'est-ce que vous faites pour contrer l'invasion ?
Gabriel, lui dit Gladstone d'une voix douce, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est la question que j'allais poser. Général ? Amiral ? Je suppose que vous avez déjà pris des mesures pour assurer la défense de ces mondes ?
L'amiral Singh se leva et alla prendre place aux côtés de Morpurgo.
« Hache présidente, dit-il, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Malheureusement, de tous les mondes menacés par la première vague, seul Asquith possède sur place un contingent de la force. Les autres peuvent être rejoints par la flotte, ils ont tous des installations distance. Mais nous ne pouvons pas envisager de diluer notre dispositif de défense à un tel point pour assurer la défense de chaque planète. Il est regrettable que... »
Singh s'interrompit quelques instants, puis éleva la voix pour se faire entendre au-dessus du tumulte.
« Il est regrettable, reprit-il, que le déploiement de nos réserves stratégiques pour renforcer la campagne d'Hyperion ait déjà commencé. » Environ 60% des 200 unités que nous avons affectées à ce redéploiement ont déjà été distransportées dans le système d'Hyperion ou sur les zones de rassemblement, loin de leur secteur défensif avancé à la périphérie du Retz.
Maiden Gladstone se frotta la joue. Elle s'aperçut qu'elle portait encore sa cape, bien que le col incognito fût baissé. Elle défit les attaches et laissa tomber le vêtement sur le dossier de son siège.
« Si je comprends bien, amiral, vous êtes en train de nous expliquer que ces mondes sont sans défense et qu'il est impossible d'y acheminer des vaisseaux dans un délai raisonnable. C'est bien cela. »
Singh se tenait au garde-à-vous, aussi raide qu'un condamné face à son peloton d'exécution.
« C'est exact, H-présidente. Il y a bien quelque chose à faire !»
s'écria-t-elle, couvrant le nouveau tumulte de sa voix puissante. Morpurgo s'avança d'un pas. «
Nous nous servons actuellement de la matrice distance civile pour acheminer le plus grand nombre possible de marines et d'hommes de troupes de la force à la surface des mondes menacés. Ces renforts disposent d'une artillerie de campagne et de défense air-espace. »
Le ministre de la Défense, Imoto, se racla la gorge.
« En l'absence d'unités de la flotte, ces forces ne pèseront pas lourd, » dit-il.
Gladstone jeta un regard à Morpurgo.
« C'est vrai, »
fit le général.
« Au mieux, elles fourniront une action d'arrière-garde pendant qu'une tentative d'évacuation sera entreprise. »«
Une tentative d'évacuation ?»
hurla le sénateur Richaud en bondissant sur ses pieds.
« Vous nous avez affirmé hier, ici même, général, que l'évacuation de 2 ou 3 millions de civils à partir d'Hyperion était impraticable. Et vous prétendez maintenant pouvoir évacuer avec succès ?»
Elle s'interrompit quelques secondes pour consulter son implant Persoc.
« 7 milliards de citoyens avant l'arrivée des forces d'invasion extra !»«
Je n'ai pas dit cela !»
fit Morpurgo.
« Nous sommes prêts à sacrifier des troupes pour sauver une minorité de représentants officiels, de membres des premières familles et d'industriels dont le savoir-faire est nécessaire à la poursuite de notre effort de guerre, mais... »«
Général !»
coupa Gladstone.
« Hier !» Cette assemblée vous a autorisé à transférer des troupes de renfort sur les unités en cours d'acheminement dans le système d'Hyperion. Cela représente-t-il un problème vis-à-vis du nouveau redéploiement ?
Le général Van Zeit, du corps des marines, se leva à son tour.
Oui, H-présidente. Des troupes ont été distransportées à bord de nos unités d'acheminement dans l'heure qui a suivi la décision prise ici. Près des 2/3 des 100 000 hommes affectés à cette mission ont été distransportés sur Hyperion à...
Il consulta l'antique montre qu'il portait au poignet.
« 5h30 standard, c'est-à-dire depuis une vingtaine de minutes. Il nous faudrait entre 8 et 15 heures pour que ces troupes soient redirigées vers les zones de rassemblement du système d'Hyperion, puis réacheminées dans le Retz. »
« Et vous disposez actuellement de combien d'hommes à l'intérieur du Retz ?»«
demanda Gladstone en portant la phalange de son index droit à sa lèvre inférieure.
« Environ 30 000, H. Présidente, »
répondit Morpurgo après avoir pris une longue inspiration. Le sénateur Kolchev abattit la paume de sa main sur la table.
« Nous avons donc dégarni le Reds, non seulement de toutes ses unités spatiales de défense, mais aussi de la plus grande partie de ses troupes. »
Ce n'était pas une question. Morpurgo n'essaya pas d'y répondre. Le sénateur Feldstein, du monde de Barnard, se leva à son tour.
« H-Présidente, » dit-elle, « il faut avertir le plus rapidement possible ma planète et toutes celles qui ont été mentionnées. Si vous n'êtes pas prête à annoncer publiquement la nouvelle, je serai obligé de le faire moi-même. »
Gladstone hocha la tête.
« Je diffuserai une déclaration publique à l'issue de cette réunion, Dorothy. Nous mettrons tous les médias à votre disposition pour faciliter le contact avec vos administrés.
« Les médias peuvent aller au diable !»
s'écria la petite femme aux cheveux noirs.
« Je rentre sur ma planète dès que nous en aurons terminé avec cette assemblée. Quel que soit le sort qui attend le monde de Barnard, ma place est là-bas. Mesdames et messieurs, nous méritons tous d'être pendus à un cadre d'istrance si ce que l'on vient de nous annoncer est vrai. »
Elle se rassit au milieu des murmures et des chuchotements. Le speaker Gibbons se leva, il attendit que le silence se fasse, puis parla d'une voix tendue.
« Général, vous avez fait état d'une première vague d'invasion. S'agit-il de l'une de vos prudentes formules militaires ou possédez-vous des renseignements réels sur des vagues ultérieures? Dans un tel cas, quels seraient les autres mondes du Reds qui se trouveraient menacés ?»
Les mains de Morpurgo se crispèrent et se décrispèrent à plusieurs reprises. Il regarda de nouveau le vide, puis se tourna vers Gladstone.
H. Présidente, me permettez-vous maintenant d'utiliser un diagramme ?
Gladstone hocha silencieusement la tête. L'image au lot était la même que celle qui avait été utilisée à l'école militaire d'Olympus. L'hégémonie était représentée par des symboles dorés. Les étoiles du protectorat étaient en vert et les vecteurs des essaims extra formaient des lignes rouges aux traînes bleues. Le déploiement de la flotte hégémonienne était indiqué en orange. La première chose qui frappait était que les vecteurs rouges avaient largement dévié de leur parcours initial, transperçant l'espace hégémonien comme des javelots à la pointe rougie de sang. Les points oranges se concentraient maintenant autour du système d'Hyperion, où s'égrenaient le long des voies d'istrance comme des perles espacées sur un collier. Quelques sénateurs qui possédaient une expérience militaire poussèrent des exclamations en voyant l'affichage.
« Les 12 essaims dont nous connaissons l'existence, »
déclara Morpurgo d'une voix calme,
« semblent s'employer à envahir le Reds. Plusieurs se sont scindés en groupes de combats multiples. La deuxième vague, dont nous attendons l'arrivée 100 à 250 heures après l'attaque de la première vague sur ses objectifs, est représentée ici. »
Il n'y avait plus aucun bruit dans la salle. Gladstone se demandait si les autres retenaient comme elle leur respiration.
Les objectifs de cette deuxième vague, reprit Morpurgo, comprennent le système d'Hébron, situé à 100 heures à partir du moment présent, le vecteur Renaissance, 110 heures, Renaissance Minor, 112 heures, Nordholm, 127 heures, Alliance Maui, 130 heures, Talia, 143 heures, Denebdrey et Denebvir, 150 heures. Sol Draconis Septem, 169 heures. Freeholm, 170 heures. La Nouvelle Terre, 193 heures. Fuji, 204 heures. La Nouvelle Mec, 205 heures. Passem, Armagast et Svodoba, 221 heures. Lusus, 230 heures. Et Tosseti Central, 250 heures.
L'affichage holo disparut. Le silence se prolongea. Le général Morpurgo reprit la parole.
Nous supposons que les essaims de la première vague se verront affectés des objectifs secondaires à l'issue de l'invasion initiale. Mais les temps de transit sous propulsion Hawking entraîneront des déficits de temps allant de 9 semaines à 3 ans en temps standard du Reds.
Il fit un pas en arrière et redressa les épaules, les doigts sur les coutures de son pantalon.
Seigneur Dieu,
murmura quelqu'un, assis à quelques sièges de Gladstone. La présidente se frotta la lèvre inférieure. Dans le dessein de sauver l'humanité de ce qu'elle considérait comme une éternité d'esclavage, ou pis, l'extinction pure et simple de l'espèce, elle avait ouvert la porte au loup alors que toute la famille se cachait à l'étage en se croyant en sécurité derrière des portes fermées. Mais le jour était arrivé où les loups s'engouffraient dans la maison par toutes les portes et toutes les fenêtres. Elle sourit presque devant ce juste retour des choses, et devant sa folie qui avait consisté à croire qu'elle pouvait déchaîner le chaos pour le contrôler ensuite.
« Premièrement, »
dit-elle d'une voix ferme,
« il n'y aura aucune démission, aucun mea culpa que je n'ai préalablement autorisé. Il est fort possible que ce gouvernement tombe et que les membres de ce cabinet, moi-même y compris, se retrouvent bientôt, comme l'a si bien dit Gabriel tout à l'heure, pendus à un cadre de porte distrance. En attendant, nous sommes le gouvernement de l'hégémonie et nous réagirons de la manière la plus appropriée par rapport aux événements en cours. Deuxièmement, je retrouverai cette assemblée dans une heure avec des représentants des autres commissions du Sénat afin de préparer l'allocution que j'adresserai aux Reds à 8 heures standard très précisément. Toutes vos suggestions seront alors les bienvenues. Troisièmement, j'ordonne dès à présent que les autorités de la force ici présentes et aux quatre coins de l'hégémonie fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver et protéger partout la citoyenneté et la propriété du Reds et du Protectorat. Et je les autorise à utiliser pour cela tous les moyens dont elles peuvent disposer. Général, amiral, je désire que toutes les troupes soient ramenées et distranslatées dans les régions menacées du Reds dans les 10 heures qui viennent. Je ne veux pas savoir de quelle manière vous vous y prendrez, mais cela devra être fait. Quatrièmement, à l'issue de mon allocution, je convoquerai le Sénat et l'Assemblée de la Pangermie en session plénière. J'annoncerai alors que l'état de guerre existe entre l'hégémonie et les nations extro. Gabriel, Dorothy, Tom et Iko, vous tous, vous allez être très occupés dans les heures qui viennent. Préparez-vous à annoncer la nouvelle à vos mondes respectifs, mais faites-moi passer ce vote. Je veux le soutien unanime du Sénat. Speaker Gibbons, je ne puis vous demander rien d'autre que votre collaboration éclairée lors du débat de la Pangermie. Il est indispensable qu'il y ait un vote de l'Assemblée aujourd'hui, avant midi. Nous ne voulons pas de surprise. Cinquièmement, nous procéderons d'une manière ou d'une autre à l'évacuation des citoyens menacés par la première vague.
Elle leva la main pour couper court aux protestations et aux explications des experts.
Nous évacuerons toutes les personnes que nous pourrons, dans le temps dont nous disposons. Messieurs les ministres Persoff, Imoto, Dangidis et Krunens créeront un comité interministériel de coordination chargé d'organiser cette évacuation. Ils devront me remettre un rapport détaillé, accompagné d'un calendrier précis, au plus tard aujourd'hui à 13h. La force et le bureau de la sécurité du Reds superviseront les déplacements des populations et l'accès aux moyens distrance afin d'assurer leur protection. Enfin, je voudrais voir chez moi le conseiller Albedo, le sénateur Kolchev et le speaker Gibbons dans 3 minutes exactement. Quelqu'un a-t-il d'autres questions à poser ?
Des visages ébahis lui rendirent son regard. Elle se leva sans plus attendre.
« Bonne chance à tous, » dit-elle. « Travaillez vite. Ne faites rien qui soit de nature à répandre inutilement la panique. Et que Dieu protège l'hégémonie. »
Tournant les talons, elle quitta rapidement la salle. Gladstone était à son bureau. Kolchev, Gibbons et Albedo étaient assis en face d'elle. L'atmosphère de crise ressentie dans les activités à demi perçues derrière les portes était accentuée par le long silence observé par Gladstone avant de prendre la parole. Sans quitter le conseiller Albedo des yeux, elle articula enfin
« Vous nous avez trahis. »
Le demi-sourire poli de la projection ne vacilla pas un seul instant.
« Pas du tout, H-présidente. Dans ce cas, je vous donne 1 minute pour nous expliquer pourquoi le technocentre et en particulier l'Assemblée consultative des IA ne nous ont jamais prédit cette invasion.
Un mot suffira pour vous répondre, H. Présidente. Hyperion.
Hyperion de merde !
S'écria Gladstone en abattant la main à plat sur l'antique bureau, en une explosion de colère qui ne lui ressemblait guère.
J'en ai marre, Albedo, d'entendre parler de variables impossibles à prendre en compte et du trou noir prédictif d'Hyperion. Ou bien le centre est capable de nous aider à démêler les probabilités, ou bien il nous ment depuis 5 siècles. Lequel des deux ?
L'Assemblée a prédit la guerre, H. Présidente, fit l'image aux cheveux gris. Nos conseillers ont expliqué en cercle restreint à votre groupe d'experts et à vous-même l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions dès qu'Hyperion était impliqué.
Foutaise !
Coupa Kolchev.
Vos prédictions sont censées être infaillibles en ce qui concerne les tendances générales. Cette offensive a dû être préparée depuis des dizaines, peut-être des centaines d'années.
Albedo haussa les épaules. C'est bien possible, sénateur, mais il est également possible que la décision de votre gouvernement de déclencher la guerre dans le système d'Hyperion ait incité les extros à précipiter l'application de leur plan. Nous vous avions mis en garde contre toute action concernant Hyperion.
Le speaker Gibbons se pencha en avant.
C'est vous qui nous avez fourni les noms des individus qui devaient faire partie de ce prétendu pèlerinage Grichtek.
Albedo ne haussa pas les épaules une nouvelle fois, mais sa projection continuait d'afficher une sérénité confiante. Vous nous aviez demandé de désigner les citoyens du Retz dont les requêtes au Gritch seraient le plus susceptibles de changer l'issue de la guerre que nous avions prédite, répliqua-t-il. Gladstone joignit le bout de ses doigts et se tapota le menton.
Avez-vous pu déterminer, depuis, de quelle manière ces requêtes pourraient changer l'issue de la guerre qui est en cours ?
Non, répondit la projection.
Conseiller Albedo,
déclara d'une voix ferme la présidente Mayna Gladstone.
Je vous fais savoir dès à présent que nous envisageons, en tant que gouvernement de l'hégémonie humaine, et en fonction des événements qui pourront se produire ces prochains jours, de déclarer qu'un état de guerre existe entre l'entité connue sous le nom de Technocentre et nous. Vous êtes habilité, comme ambassadeur de facto de ladite entité, à rapporter ce fait aux autorités concernées.
Albedo eut un sourire. Il écarta les bras. H. Présidente, c'est sans doute une mauvaise plaisanterie due au choc de cette terrible nouvelle. Déclarer la guerre au technocentre équivaudrait, pour un poisson, à déclarer la guerre à l'océan, ou bien pour un conducteur de VEM à s'en prendre à son véhicule parce qu'il vient d'apprendre qu'il y a eu un accident quelque part. Gladstone ne sourit pas.
J'avais autrefois un grand-père sur Patofa,
dit-elle lentement avec un accent soudain plus épais.
Un matin, il a logé 6 balles de pulsant dans le VEM familial, uniquement parce qu'il n'avait pas voulu démarrer. Vous pouvez vous retirer, Albedo.
L'image du conseiller vacilla une fraction de seconde et disparut. Ce départ abrupt pouvait être considéré soit comme une atteinte au protocole, la projection quittait habituellement la salle ou attendait que les autres la quittent avant de se désagréger, soit comme un signe de désarroi de la part des intelligences du centre qui contrôlait l'image. Gladstone se tourna vers Kolchev et Gibbons.
« Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, messieurs, » leur dit-elle. Mais j'insiste sur le fait que je compte sur votre soutien total lorsque la déclaration de guerre sera discutée dans 5 heures.
Vous l'aurez,
déclara Gibbons. Les deux hommes prirent congé. Les collaborateurs directs de la présidente arrivèrent aussitôt par plusieurs portes et panneaux secrets, en la bombardant de questions ou en programmant leurs instructions sur leur persoc. Gladstone leva la main pour leur imposer le silence.
Où est Severn ?
Demanda-t-elle. Comme personne ne semblait savoir de qui elle parlait, elle ajouta.
Le poète, le peintre plutôt, celui qui est en train de faire mon portrait.
Plusieurs collaborateurs s'entre-regardèrent, comme si leur présidente avait soudain perdu les pédales.
Il dort encore, répondit Leigh Hunt. Il a pris des somnifères et personne n'a songé à le réveiller pour cette réunion.
Je veux le voir ici dans 20 minutes au plus tard. Vous le mettrez au courant de tout ce qui s'est passé.
Où est le commandant Lee ?
Nikki Cardone, la jeune femme chargée des liaisons militaires, s'avança.
Lee a été affecté depuis hier soir par Morpurgo et le chef du secteur naval de la force aux opérations de patrouille de la périphérie. Il passera une 20aine d'années de notre temps à sauter d'un monde océanique à l'autre. En ce moment même, il se trouve au centre de communication navale de la force sur Brescia, en attente d'un transport stellaire. Faites-le revenir immédiatement. Je veux qu'il soit promu au grade de contre-amiral ou à n'importe quel fichu grade qui nous permette de l'affecter ici comme conseiller personnel de la présidence et non à la maison du gouvernement ou dans je ne sais quelle branche exécutive. Qu'on en fasse mon porte-serviette nucléaire si nécessaire.
Elle contempla un moment, sans rien dire, le mur nu. Elle songeait à tous ces mondes où elle était allée faire quelques pas la nuit dernière. Le monde de Barnard, avec ses 2 bâtiments universitaires, et la lumière des réverbères qui brillaient à travers le feuillage. Le bosquet de Dieu, avec ses ballons captifs et ses zeppelins qui flottaient à la rencontre de l'aube. Heaven's Gate avec son esplanade. Ils étaient tous sur la liste des objectifs de la première vague. Elle secoua la tête.
Lake, dit-elle, je voudrais que vous fassiez, avec Tara et Brindenas, la première mouture des 2 discours, celui que j'adresserai aux Reds et celui de la déclaration de guerre. Il me les faut dans 45 minutes. Que ce soit bref et sans équivoque. Voyez sous les rubriques Churchill et Strudensky dans vos fichiers. Réaliste mais exalté. Optimiste mais tempéré par une amère résolution. Nikki, il me faut une surveillance en temps réel de chaque mouvement accompli par les chefs d'état-major. Je veux mes propres cartes stratégiques relayées sur mon implant. Top secret. Barbre, vous serez la continuation de ma diplomatie par d'autres moyens au Sénat. Allez là-bas, faites passer des notes, tirez sur les ficelles. Faites chanter, cajoler autant que vous voudrez. Mais faites-leur prendre conscience qu'il serait moins dangereux pour eux d'aller affronter les extros à mains nues que de me contrer dans les 3 ou 4 prochains votes. Des questions ?
Elle attendit 3 secondes, frappa dans ses mains et s'écria
« Tous au travail alors, les enfants !»
Durant le bref intervalle de temps qui lui restait avant l'arrivée de la nouvelle vague de sénateurs, de ministres et de conseillers, elle se tourna vers le mur nu qui se trouvait derrière elle, leva l'index en direction du plafond et secoua le bras. Elle se retourna juste à temps pour accueillir la nouvelle fournée de personnalités.